Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys have a comedy of errors. You fellow with your fellows get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shrew. Your midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Montague, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives are going to look
clean. Bonsoir, il est 19h.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 5 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Alors ce soir, on va parler de l'adoption de la loi mariage pour toutes et tous.
Ensuite, on va faire un point sur le rapport sur les expulsions de Campan de Rome.
Ensuite, la préfecture du Rhône condamnée à reloger des familles expulsées.
Ensuite, on va faire un point à Notre-Dame-des-Landes. La construction de l'aéroport serait peut-être repoussée.
Les autotests de dépistage du VIH.
Une brève dans la rubrique Monde de merde.
Et le 19e anniversaire du génocide rwandais.
Ensuite, on va avoir une interview des personnes de l'envolée qui vont nous parler du procès de Christophe Kider.
Et ensuite, ça sera la rubrique Il faut que ça se sache.
Et pour finir, la météo.
Alors, le Sénat français a adopté hier soir, par 179 voix contre et 157, le premier article du projet de loi sur le mariage homosexuel. Donc, je me suis trompée, c'est 179 voix pour. Oui, oui, c'est. Voilà. Et donc, le premier article, c'est le plus important et c'est celui qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Et donc il a été adopté conforme, c'est-à-dire sans modification par rapport au vote en première lecture de l'Assemblée nationale. Et donc ce vote devient définitif, sauf si l'ensemble du projet de loi était rejeté à l'issue de son examen par le Sénat. Et donc, puisqu'il a été considéré conforme, il ne sera pas soumis à une deuxième lecture de l'Assemblée nationale, ni à une commission mixte paritaire, soit il est adopté. Mais donc, une partie de la droite a déjà annoncé qu'étant opposée au volet filiation et à l'adoption plénière, qui vont être passés dans demain et après-demain, ils voteraient donc contre l'ensemble du texte, l'ensemble de la loi, et donc ça pourrait prendre du retard. Oui, pardon. Les sénateurs ont adopté cet article après avoir rejeté tous les amendements de l'opposition, dont ceux proposant la mise en place d'un pacte d'union civile, ce qui est du foutage de gueule puisque le PACS existe toujours. Et les groupes de la majorité de gauche ont voté cet article, tandis que ceux de l'opposition UMP et UDI se sont prononcés contre. Et après ce vote au Sénat, le texte... non. Pardon, j'ai vraiment mal rédigé mes infos. Après le vote donc hier soir, la droite a poursuivi son harcèlement sur la suite des articles. Donc Gérard Longuet et Philippe Bas ne cessant d'intervenir longuement. Et notamment, l'ancien ministre de la Défense a même demandé la suppression d'un couplet de la Marseillaise, car hétérosexuel et qui défend l'altérité. Voilà, parce que la droite est vraiment en colère et donc les opposants au mariage ne se désarment pas et Brigitte Bardot a annoncé aujourd'hui une nouvelle manifestation nationale pour le 26 mai.
Tu as dit, c'est bon, on pourrait en supprimer des paquets de couplets de la Marseillaise.
On pourrait même supprimer la Marseillaise, hein,
allez,
c'est
tiens.
Que ça.
Quoi. J'ai appris que Brigitte Bardot voulait se rendre à la manifestation contre les actes homophobes qui va se passer à Paris, là, suite à une action qui a eu du printemps français. Elle a dit qu'elle voulait y aller parce qu'elle n'était pas d'accord avec le fait que dans ce débat, il y ait des violences contre les personnes homosexuelles. Voilà. Alors, on va faire un petit point sur il y a un rapport qui est tombé sur le nombre d'expulsions de campements de Roms. Alors voilà, bah, pendant le premier trimestre 2013, plus de 4000 Roms ont été expulsés de leur domicile. Si on compare ces chiffres au premier trimestre 2012, c'est-à-dire sous l'ère Sarkozy, il y en avait eu 3000. Voilà, 1000 de plus quand même. Bravo.
Bravo les socialistes.
Ils ont battu tout le monde.
C'est la classe hein, quand même. Alors bon, là on parle quand même bien de la période que du coup pendant ce premier trimestre 2013 et 2012, c'était pendant la période de la trêve hivernale qui, on sait, légalement ne concerne pas les squats et terrains occupés, mais qui quand même, d'après plusieurs politiques, est une période où, soi-disant, bon, on lève un peu le pied sur les expulsions d'occupation illégale. Ensuite, le rapport parle de la fameuse circulaire socialiste interministérielle du 26 août 2012 qui indiquait aux préfets qu'avant d'expulser un terrain ou un squat, ils avaient l'obligation de faire un diagnostic pour savoir qui et dans quelle situation étaient les personnes qui étaient présentes sur le squat et que des solutions d'hébergement devaient être proposées. Bon bah voilà, on s'y attendait, personne n'a tenu compte de cette circulaire, aucun préfet l'a respectée, et Manuel Valls n'a surtout pas insisté pour qu'elle soit strictement appliquée. Ce que dit ce rapport, et ce qui fait encore plus flipper que ce que je viens de dire avant, c'est la montée en force des actes xénophobes à l'égard de cette population. Bon bah voilà, tout ça favorisé par un discours politique immonde du genre Valls qui dit que les Roms n'ont pas envie de s'intégrer en France et qu'ils ont vocation à retourner en Roumanie. Bon, il est toujours quand même bon de rappeler que les Roms ne sont pas uniquement roumains, mais viennent de plusieurs autres pays d'Europe. Il souligne aussi que de plus en plus d'élus soutiennent ou sont à l'initiative de pétitions anti-Roms, comme par exemple à Vigneux-sur-Seine dans le 91, à Ris-Orangis dans le 91 et à Montpellier. Et ensuite, il finit par les actions violentes contre des campements de Roms qui sont en nette progression, comme à Ivry-sur-Seine, où des habitants ont essayé de foutre le feu au camp le 27 mars. À Marseille, le 29 mars 2013, un camp se fait attaquer à coups de gaz lacrymogène, une personne a fini à l'hosto. À Bobigny, dans le 93, et à LM, dans le 59, je ne sais pas trop où c'est. Dans le nord, non ?
Ouais, c'est ça, le nord.
Deux camps ont pris feu et la piste d'un incendie criminel est fortement privilégiée. Voilà.
Et alors pendant ce temps, pendant que le peuple s'attaque aux Roms, heureusement, la justice, elle. Et bien du coup, vous allez voir, c'est plutôt du bon boulot. Et du coup, c'est sans doute une jurisprudence très importante qui a été posée par le jugement du 4 avril, donc il y a 6 jours, au tribunal administratif de Lyon. Alors un petit retour en arrière. Le 28 mars, il y a donc une quinzaine de jours, les flics lyonnais ont expulsé un camp de Roms, je ne sais pas où, quelque part sur l'agglomération. Bon, jusque-là, banal. Donc c'est 12 familles qui ont été expulsées ce jour-là. Et alors ce qui est moins banal, c'est que des associations qui se bougent autour de ces familles ont eu recours à ce moment-là à cette procédure qu'on appelle le référé liberté. C'est une procédure qui permet d'attaquer l'État quand l'État manque à des obligations constitutionnelles, quand il manque à des trucs sur ce qui est considéré comme des libertés fondamentales. Et avec cette procédure, on a un jugement très rapidement, dans les 72 heures il me semble. Or, la jurisprudence de février 2012 avait établi que l'État est dans l'obligation de loger des personnes si elles sont sans abri et si elles sont en état de détresse médicale, sociale et psychologique. Il faut bien les trois. Bon, alors vous allez me dire que l'État a de toute façon l'obligation d'héberger tous les gens qui en font la demande et qui n'ont pas de logis. Ça, c'est la loi Molle, elle existe, etc. Et vous aurez raison, mais il y a une hiérarchie des obligations, en gros. En gros, quand c'est juste une petite loi normale, là, le préfet, s'il le fait chier, la loi, il ne l'applique pas. Un peu de la même façon qu'un flic avec qui vous avez une petite embrouille dans la rue, il ne s'est jamais complètement senti cadré par la légalité pour évaluer sa manière de réagir. Le préfet, c'est pareil. Mais là, en fait, ce qui se passe avec cette histoire de référé-liberté, ce jugement de février 2012, ce qui est nouveau, c'est qu'il s'agit d'une obligation constitutionnelle sur la liberté fondamentale. Et là, en fait, même un préfet, il peut pas rigoler, quoi. Il est obligé de faire ce que le tribunal lui enjoint. Bref, les associations, en l'occurrence c'était le MRAP, ont lancé du coup sur cette expulsion une procédure de référé-liberté. Les deux avocates ont eu à prouver donc les trois urgences, médicales, sociales et psychologiques, et elles y sont parvenues. En tout cas, elles y sont parvenues en grande partie, parce que sur les 12 familles qui ont été expulsées, la préfecture a été condamnée à en reloger 10. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est les 10 familles qui avaient des enfants. Les deux autres familles, c'est des couples sans enfants, ou en fait, j'en sais rien, ou peut-être des familles avec des enfants grands. Mais il me semble que c'est plutôt des
majeurs,
couples sans enfants.
Majeurs, tu veux dire?
Pas forcément majeurs, ouais. mais pas petits, quoi. Parce que du coup, d'après une source anonyme d'une association de logement lyonnaise que j'ai eue au téléphone tout à l'heure, en fait, visiblement, le truc de gamin en dessous de 6 ans, ça compte dans ce que je vais finir de raconter là. Et donc, il semble que, depuis ce fameux jugement de février 2012, les juges semblent considérer qu'un enfant en bas âge, donc moins de 6 ans, en gros... Pour un enfant jeune comme ça, le fait d'être à la rue, en soi, ça constitue la triple urgence médicale, sociale et psychologique. Et s'il n'y a pas d'enfant, ou si les enfants sont trop grands, là par contre, il faut plutôt des sacrées bonnes raisons, genre maladie grave en phase terminale, quoi.
Du coup, il suffit d'avoir un enfant de 6 ans pour réunir la triple condition.
Ouais. Okay. Et d'être dehors. Bref, la préfecture est condamnée, la condamnation est assortie d'une astreinte, c'est-à-dire que la préfecture a eu, au moment du jugement, 4 jours pour reloger les familles, et si elle ne s'exécutait pas, elle devait payer 75 euros par famille et par jour de retard. Donc dans un premier temps, les familles ont été hébergées par des curés, d'abord dans une salle paroissiale à Gerland, et puis après une autre salle paroissiale à Villeurbanne. Et lundi, donc avant-hier, le jour limite fixé par le juge, les avocates ont été prévenues par la préfecture que les familles allaient être hébergées à partir d'aujourd'hui. Donc 2 jours de retard. Donc normalement, la préfecture doit 150 euros à chaque famille, mais en tout cas, quand même, jugement rapidos et prise d'effet rapidos aussi. Alors ce jugement constitue... sans doute une très grande victoire, potentiellement une jurisprudence qui pourra carrément beaucoup resservir à des militants autour de questions comme ça. Et donc les points principaux à retenir sont les suivants. D'abord, pour la première fois, un jugement de ce type intervient en faveur de familles qui ne sont pas réellement à la rue au moment du procès, c'est-à-dire qu'au moment du procès, les familles étaient déjà dans une salle paroissiale. Mais le juge a considéré que les locaux paroissiaux sont, ouvrez les guillemets, c'est écrit dans le jugement, inadaptés et ne sauraient constituer une solution d'hébergement. Bon, bien sûr, il s'agissait de locaux qui n'étaient effectivement pas prévus pour de l'hébergement, il n'y avait pas de douche, tout ça. Donc voilà, là, en l'occurrence, le juge, il a dit, c'est pas une question de toi, c'est une question qu'ils sont dans des endroits où, enfin, qui ne sont pas faits pour habiter, quoi. Ensuite, le juge a refusé de prendre en compte ce que la préfecture pouvait dire. Bon, la préfecture, en fait, ils avaient envoyé personne au tribunal, hein, mais ce que la préfecture aurait pu avoir à dire sur des possibilités concrètes que la préfecture aurait pu avoir de jugement. Il a précisé, c'est précisé dans le jugement, que la saturation du dispositif d'urgence du 115 ne saurait justifier qu'aucune solution ne puisse être offerte à une famille sans abri composée d'enfants en bas âge, compte tenu des conséquences graves pour ses enfants. En gros, le préfet doit appliquer la loi, il se démerde comme il veut, et ça ne regarde pas la justice s'il peut l'appliquer ou pas. En fait, juste s'il y a une loi, et le préfet, il doit l'appliquer. Donc c'est ça que le juge disait. Et puis, alors, l'autre point à retenir, mais ça c'est le point plus pratique, là, du coup, et que j'ai déjà dit, c'est vraiment qu'il faut avoir des gamins, quoi. Donc faites des enfants, pour en avoir tout le temps en bas âge, refaites-en quand même tous les 4 ou 5 ans, et ça aide beaucoup. Alors, là où cette jurisprudence est potentiellement une arme de gros calibre entre nos mains, c'est que ce jugement est intervenu pour la première fois suite à une expulsion. ce qui signifie, si d'autres jugements viennent confirmer celui-là, et si du côté des associatifs, on arrive à se saisir assez régulièrement de cette possibilité, ce qui signifie que peut-être le préfet un jour pourrait finir par hésiter avant d'ordonner une expulsion, tout bêtement. En gros, tant que les gens vivent en squat ou sur un terrain qui est occupé même illégalement ou quoi, là, et ben, les gens, ils se démerdent, quoi, ils se gèrent tout seuls. Mais quand la préfecture les expulse, ce qui se passe depuis la semaine dernière, c'est que la charge revient à la préfecture de leur trouver une solution de relogement. Du coup, le rapport dont tu parlais tout à l'heure pour les Roms, et ben voilà, là en l'occurrence, de toute façon, ils n'ont plus rien le choix, quoi. Et donc, comme la préfecture ne va pas du tout avoir de solution de très grande échelle, là, toujours la même association lyonnaise qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat me disait tout à l'heure qu'il y a sans doute 3000 personnes, il disait pas sans doute en fait, il disait 3000 personnes connues à la rue à Lyon, c'est-à-dire sans logement, sans solution, avec la fin du plan, enfin en comptant les gens qui vont être mis dehors à la fin du plan froid, mais qui étaient que 800 sur ces 3000 de ceux qui sont pas déjà mis dehors. Donc voilà, c'est clair que la préfecture va pas pouvoir expulser tout le monde, et du coup, eh ben, ce qui est bien possible, c'est que M. le préfet préfère des fois laisser ses flics à la niche et les gens dans leur squat, plutôt que d'avoir à leur trouver un toit. Alors dernier truc, et puis après je passe la parole, parce qu'on est sur Canu, il faut quand même souligner que tous les médias qui ont parlé cette affaire se sont focalisés sur le fait que les familles qui ont attaqué l'État au tribunal administratif étaient des familles roms, donc c'est des familles roms attaquent l'État, etc., etc. En fait, ces médias, ils mettent l'accent sur un truc qui a juste rien à voir dans l'histoire, parce que ils ont pas précisé si le juge était poitevin ou si ses grands-parents étaient étrangers ou je ne sais quoi là. C'est pas parce que ces familles sont roms que la préfecture a été condamnée, qu'on s'entende bien, c'est bien parce que ces familles étaient à la rue, ou en l'occurrence dans un logement inadapté, et c'est bien parce que c'est les pouvoirs publics qui les avaient foutus dehors. Donc la dénomination correcte quand on relaye cette information, c'est pas famille roms, mais c'est bien famille sans domicile.
Notre-Dame-des-Landes, maintenant, la construction de l'aéroport risque d'être repoussée. Donc on peut se poser la question, le projet d'aéroport le plus long de l'histoire, donc il faut rappeler que ça fait 40 ans que ce projet est dans les tiroirs, que là il avait sacrément avancé ces quelques dernières années, mais est-ce que ça va se prolonger, cette attente ou pas? En tout cas, il y a une commission du dialogue qui s'était mise en place fin novembre, et qui avait été mise en place par Jean-Marc Ayrault, notre Premier ministre, qui était avant, pendant longtemps, maire de Nantes, et qui vient de rendre hier ses rapports. Donc, trois rapports ont été rendus qui demandent en effet des aménagements substantiels au projet initial de nouvelles plateformes aéroportuaires. Donc, autant dire, ils demandent de la réflexion en plus pour ce projet. Donc du délai, et donc et surtout ils ne veulent pas dire qu'ils annulent le projet. Donc Jean-Marc Ayrault a bien rappelé que il ne re-questionnait pas l'utilité publique de ce projet, mais bien sa mise en œuvre sur les modifications et améliorations à apporter à ce projet. Donc cette commission du dialogue avait été demandé là par les associations et les occupants là-bas, comme en fait nous, eux, ils disaient nous voulons pas collaborer avec cette commission du dialogue parce que nous considérons pas comme utilité publique ce projet, donc à partir du moment on va pas se mettre à négocier avec vous. Et donc là ils en sont même plus à réfléchir en termes d'utilité publique, ils sont juste en train de dire bon bah ça va prendre du temps, on va encore améliorer le projet. Donc les trois rapports, l'un est sur un volet économique. Donc et il parle de l'augmentation du trafic, parce que en fait ce qui se passe, c'est que il y aurait l'aéroport qui existe déjà continuerait à être une piste à être utilisée par Airbus, et là ils ont remis ça en question, ils ont dit peut-être que ça ferait trop, et donc il faudrait imaginer une autre possibilité de flux, en gros, voilà. Et du coup, en termes économiques, la nécessité de relier Nantes aux grandes métropoles européennes et le développement des transports à l'échelle des deux régions concernées, donc Pays de la Loire et Bretagne. Et donc, ils se disent que bon, peut-être il faut revoir les différents transports et les propositions de transport, parce que vous voyez, il y a l'idée de faire des voies, un aéroport plus des trains, etc. Et donc il y a eu aussi deux autres commissions sur les impacts écologiques. Et en gros, il s'agit d'experts scientifiques qui remettent en question la parole d'autres experts scientifiques sur la validité du calcul de compensation des zones humides. Bref, j'ai vraiment pas tout compris, donc je vais pas vous donner les détails, mais en gros, la zone là-bas représente 98% de surface humide, ce qui serait peut-être trop.
Faut pour mettre les des Rupson, peut-être, ça veut dire un truc comme ça.
Ouais. Voilà, donc ces trois rapports devraient servir de base à une nouvelle proposition. En tout cas, ils ont parlé de repousser le chantier à de longs mois et pas avant l'automne, en tout cas.
Et peut-être quand même pour rappeler, je connais pas les détails, mais c'est vrai que le 13 avril, c'est samedi, il me semble, il y a un appel national SEMTASA, il se passe plein de trucs partout, et vous pouvez, je pense, trouver toutes les infos sur internet.
Le site c'est zad.nadir.org, il faut bien rappeler que les gens continuent à être en lutte et habitent beaucoup sur la zone, et que qu'ils vont sûrement sortir de ces rapports dans les prochains jours des textes intéressant.
Alors une petite info sur les autotests de dépistage du VIH. Il y a quelques semaines, c'était le 13 mars, il y a le Conseil national du SIDA qui a rendu un avis favorable à la mise sur le marché des autotests. Donc en fait, c'est des tests qu'on peut faire soi-même, tout seul, chez soi, à partir d'un échantillon de salive et qui donne un résultat en 20 à 30 minutes et où on sait qu'on est séropositif ou pas. En fait, ces tests-là, ils existent aux États-Unis. Donc, depuis 1996, aux États-Unis, on peut faire soi-même des tests tout seul avec un petit prélèvement sanguin du bout du doigt. Et depuis l'été dernier, on peut faire un test salivaire. Donc celui qui est autorisé et commercialisé aux États-Unis, c'est le kit OraQuick In-Home HIV. Et c'est un labo qui s'appelle OraSure Technologies. En fait, le Conseil national du SIDA en France, il s'était déjà penché sur cette question des autotests en se demandant si c'était une bonne chose ou pas. Et puis en 1998 et en 2004, ils avaient dit ben non, on n'est pas d'accord parce que c'est pas assez performant comme test, ça pose un peu plein de questions. Donc voilà, cet organe avait refusé un petit peu ces autotests. Et là, ils ont un peu revu leur démarche. Et ils sont prononcés en faveur de la mise sur le marché de ces tests en essayant un petit peu d'évaluer les bénéfices et les risques. Alors, ces tests, en gros, pour les définir un petit peu plus, donc des gens qui vont pouvoir acheter, par exemple en pharmacie, etc., un test, comme on achèterait un test de grossesse. Et ben on va acheter un espèce de petit kit, et puis on va faire le test soi-même tout seul chez soi, sans prescription médicale. On n'a pas besoin d'une prescription pour avoir ce test-là. Et en fait, voilà, on fait le prélèvement. Alors, on prend une espèce de coton-tige qu'on se passe dans la bouche, donc autour des dents, vous voyez, entre les gencives et les lèvres. Et puis après, on fait réagir avec un petit produit. Et puis, s'il y a une barre qui apparaît ou deux barres, on peut lire le résultat. C'est vraiment la base du test de grossesse. Et du coup, on peut lire le résultat assez facilement. Et après, le résultat, par contre, qu'on obtient, il doit être confirmé. C'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez ce résultat-là, eh ben, vous allez faire un test de prélèvement sanguin, une prise de sang habituelle, pour être vraiment sûr. Et ces tests-là, ils coûtent à peu près 30 euros. Voilà, finalement... Le Conseil national du SIDA trouve que les techniques, elles ont évolué et qu'en fait, avant, ces tests-là, ils n'étaient pas très fiables et que finalement, maintenant, on a des tests qui sont plus performants et puis qu'on a aussi une modification du contexte. En fait, ce qui les freinait vachement avant, c'est le fait qu'on fasse ce test tout seul chez soi et que du coup, on se dit, oh là là, si on apprend qu'on est séropositif tout seul dans sa salle de bain ou dans sa cuisine, eh ben, qu'est-ce qui va se passer pour les gens ? Comment les gens ils vont gérer ça ? Et en fait, ils ont un petit peu revu ça parce qu'ils se disaient, oui, mais c'est vrai que si les gens font ça tout seuls, ils ne peuvent pas discuter avec un professionnel avant le test ou à la remise des résultats, c'est compliqué, ils sont tout seuls. Et puis, ils craignaient aussi qu'il y ait des usages un peu détournés dans des situations de contrainte, en fait. Qu'on contraigne des personnes à faire un test pour après pouvoir leur imposer des tas de choses, au niveau de la sexualité, en tout cas. Et du coup, là, ils se disent que finalement, le contexte, il a changé, que finalement, ça peut être bien d'avoir un outil qui permet d'avoir un dépistage précoce parce que... Ah, on nous téléphone. Et que... c'est pas grave. Et que donc, c'est plus important maintenant d'arriver à faire du dépistage précoce pour tout le monde parce que l'épidémie, elle est assez active. Et il y a un certain pourcentage de personnes, qu'on estime à peu près 20% en France, qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Et que du coup, le problème, c'est que ces gens-là qui ne connaissent pas leur statut sérologique, ils contribuent à diffuser. Alors, on ne va pas dire qu'ils sont responsables ou coupables de la diffusion de l'épidémie, mais évidemment, comme ils ne savent pas leur statut, ils ne se protègent pas forcément. Et on sait que du coup, l'enjeu, c'est que les gens y connaissent bien avant leur statut, le plus tôt possible, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu sur conséquence sur les pratiques, c'est que les gens, quand ils savent qu'ils sont séropos, ils font attention aux autres et ils mettent une capote.
Et en même temps, je ne comprends pas bien la logique, parce que pourquoi ces gens qui font pas le test, par exemple, alors qu'il est gratos, ils vont payer 30 balles pour et que ça va. Enfin, c'est pas forcément plus fin. Enfin...
Bah, en fait, l'enjeu de mettre sur le marché des tests qu'on peut faire tout seul chez soi, c'est d'éviter de passer par des soignants, par exemple, pour éviter un peu le rapport où les gens ils pensent qu'ils vont être jugés par les personnes qui vont faire ce test-là. Mais c'est vrai que le prix, en tout cas, c'est une limite très forte à ce test, comme on va voir, quoi. Donc en fait, là, le CNS, le Conseil national du SIDA, il se dit, bon, ben voilà, c'est l'intérêt collectif c'est un intérêt collectif fort d'autoriser la mise sur le marché de ce test, parce que il y a plein de gens qui, comme ça, pourraient être au courant de leur infection et qui vont faire attention et pourquoi pas se traiter, se soigner, ce qui fait qu'ils seront moins contagieux. Aussi, le Conseil national du SIDA trouve que c'est important de diversifier l'offre de dépistage parce que justement, en fait, il y a des centres de dépistage qui existent, mais on sait qu'il y a plein de gens qui vont dans les laboratoires en ville pour faire un dépistage et que ce qui est intéressant, c'est qu'on ait plusieurs solutions différentes qui correspondent à des tas de gens différents et à ce que chacun pourrait avoir besoin. Et en fait, du coup, comme maintenant ces tests ils sont un peu plus fiables qu'avant, le Conseil national du SIDA pense que ça peut être intéressant. Alors surtout, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien ces tests-là. Par exemple, les hommes qui ont une sexualité avec d'autres hommes, ils trouvent que dans des évaluations qui ont été faites où les gens ont été interrogés, les personnes qui préfèrent ces tests-là, ça serait les hommes qui ont une sexualité avec les hommes et les jeunes. Ce que les homosexuels ou les gays ils pourraient aimer dans ces tests, c'est le fait que eux parfois ils peuvent avoir une vie sexuelle qui est un peu secrète, en fait, parce qu'il y a des hommes qui ont une vie sociale un peu hétéro, qui ont une famille par exemple, et c'est pas pour ça qu'ils ont pas une vie sexuelle avec d'autres hommes. Et du coup, ça va être intéressant pour eux d'arriver à avoir ce test-là. Parce que en fait, ils pourront l'acheter discrètement et puis faire ce test-là discrètement plutôt que d'aller dans leur ville ou au laboratoire de leur bled ou au centre de dépistage. Donc en fait, comme ça permet un résultat rapide et puis une certaine confidentialité, c'est super important dans ce que les gens ils ont pu dire en disant oui, mais nous ça nous intéresse, etc. Alors il y a trois grandes limites à ces tests. C'est le fait qu'en effet, les gens ils vont être tout seuls quand ils vont découvrir le résultat. Donc ça, c'est un premier gros problème. Ensuite, le deuxième gros problème, c'est le prix. C'est-à-dire que 30 euros, ça exclut de fait plein de populations précaires qui pourraient être exposées au risque de transmission du VIH et qui, de fait, n'aura pas accès parce que c'est trop cher.
Est-ce que là-dessus, on sait s'il va y avoir une espèce de campagne comme il peut y avoir sur le préservatif ou sur plein d'autres trucs où, du coup, il y a des assos qui vont être équipés de... plein de tests gratos qui pourront diffuser dans plein d'endroits différents.
Tu fais des plans récup, toi, direct.
Oui, alors justement, par rapport à ça, par rapport au fait que les gens, ils sont que c'est super cher, le Conseil national du SIDA, il a conclu que c'était important de mettre ces tests sur le marché, mais en faisant des recommandations. Et dans ces recommandations, il y a aussi que ça doit être proposé à des personnes même précaires, etc., par exemple des associations. Donc, alors, ça ne veut pas dire que les associations, elles vont recevoir plein de tests comme ça, etc. Ça veut dire que probablement ce qui va se passer, c'est qu'on va dire aux assos, faites-nous des dossiers de demande de subvention, on va vous donner 1000 balles, et avec ça, vous devrez faire 300 000 tests. Enfin bref. Mais, en tout cas, ce qui est probable, c'est que ça soit permis pour que les assos, elles en donnent gratuitement. Donc voilà, il propose aussi que ça soit assez largement distribué, par exemple pharmacie, internet aussi. Mais alors pour internet, il faudrait savoir être à peu près sûr que les gens qui vont que les tests qu'on va trouver sur internet, ça soit pas des merdes infâmes qui soient des trucs de mauvaise qualité. Et surtout, il faut que la notice, elle soit bien foutue et qu'elle explique vraiment très bien quoi faire si le test il est positif. Et il faut aussi qu'elle soit dans une langue que les gens y comprennent, accessoirement. Donc en fait, c'est un petit peu l'enjeu, ça va être de comment on va penser l'accompagnement pour les personnes. Parce que le Conseil national du SIDA, ils disent « Ah oui, bah, il faut des bonnes conditions d'usage, il faut garantir un accompagnement performant des usagers. » Bon, moi je suis un peu sceptique parce que je trouve que ça coûte rien de le dire, ça coûte rien d'écrire sur du papier, c'est très bien de mettre ça. Mais je ne vois pas comment, quels moyens vont être mis en place pour accompagner vraiment. Alors, d'un point de vue des assos, c'est sûr que si par hasard, il y avait plein de subventions pour que les gens qui bossent dans les assos ou les bénévoles, ils fassent tout un travail d'information, etc. Mais bon, enfin, il ne faut pas rêver. Et du coup, ce qu'ils proposent pour améliorer l'accompagnement, c'est qu'il va falloir mettre à disposition des usagers des documents qui expliquent des choses sur le sida. Ouais, bon... Je suis vraiment pas convaincue. Y a un truc qui se passe aux États-Unis qui est assez bien. C'est le fabricant du test qui a mis ça en place. Il a mis en place une hotline qui est disponible 24 heures sur 24. Et en fait, elle est disponible en anglais et en espagnol pour répondre aux questions que les gens peuvent se poser et du coup pour orienter les gens vers des structures. Mais j'arrive pas à savoir dans ce que j'ai lu. Le Monde, il pense que ça veut dire que ça va être mis en place en France. Et moi, dans ce que j'ai lu ailleurs, je vois nulle part où il y aurait des financements pour ça, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que le journaliste du Monde, il est un peu « wouh ». Il s'est un peu dit « c'est génial et tout », mais je ne pense pas que ça soit prévu. Mais donc voilà, du coup, en tout cas, c'est quand même un dispositif qui est intéressant parce que c'est un nouvel outil pour des gens qui ne voudraient pas avoir à se confronter avec des soignants ou avec le regard de quelqu'un d'autre. Mais du coup, il faut encore voir qu'il y a cette histoire du prix qui, de fait, va exclure pas mal de personnes. Voilà, c'est à peu près tout.
Monde de merde.
Monde de merde.
Merci pour ce jingle 100% improvisé. Et bien là, on va à Bordeaux et on va dans le quartier de Saint-Paul qui peut compter sur une nouvelle initiative citoyenne qui ne fait pas franchement rêver, comme vous l'aurez deviné vu dans la chronique où cette info se trouve. Depuis quelques jours, le quartier voit fleurir des affiches couleurs collées à plusieurs endroits du quartier. Sur ces affiches, on peut lire: dealer, souriez, on connaît vos clients, deal safari, concours photo, prenez les dealers en photo et envoyez-les sur la page Facebook. Bon, alors là, première nouvelle, on se dit que c'est encore une initiative des fachos locaux. Eh ben non, parce que quand on s'approche un peu plus, on peut lire sur la même affiche « Les habitants du quartier sont fâchés, pas fachos ». Là, on est rassuré.
Et on rigole en plus.
C'est ça. Et vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Une des personnes à l'origine de cette association qui s'appelle Deal Safari, c'est Jean-Christophe Cabu, commerçant qui tient un bar dans le quartier et qui est sympathisant de
Manuel Valls.
Du Front de Gauche. C'est pas mal, hein. Et Jean-Christophe tient bien à nous préciser que ce que nous avons fait avec les riverains, ce n'est pas de l'appel à la délation, mais à la dénonciation. Les mots ont leur importance.
Ah oui, là.
Alors oui, c'est vrai qu'il fallait, c'était important de préciser qu'il était fâché et pas facho, parce que c'est vrai qu'on avait un peu de mal à faire la différence. D'ailleurs, un élu de la majorité de la mairie de Bordeaux, Fabien Robert, qui porte donc l'étiquette UMP, s'est associé à cette initiative. Alors bon, c'est vrai qu'entre un appel à la délation publique et une alliance avec l'UMP, ça valait quand même bien le coup de le signaler sur les affiches qu'il ne s'agissait pas là d'une initiative des identitaires ou du Front National, parce qu'avec tous les ingrédients, là quand même, ça sonnait bien ça. Bon bah, de notre côté, voilà, on n'est pas très rassurés, parce qu'entre un élu du Front de Gauche qui manifestait à Montreuil il y a quelques semaines pour protester contre l'installation des familles roms sur la commune et ce sympathisant qui fait un appel à la délation, la révolution de Jean-Luc Mélenchon, fait un peu flipper.
Alors, on va maintenant écouter une interview de Personne de l'Envolée qu'on avait reçue la semaine dernière, qui nous parle encore une fois du procès de Christophe Kider, qui passe en procès aux Assises de Lyon pour évasion.
Bonjour. Donc, je participe à l'Envolée, un journal sur la justice et la prison, qui publie des lettres de prisonniers et voilà, des critiques de la justice, etc. Donc on est en train de suivre le procès d'évasion de la centrale de Moulins qui a eu lieu en 2009. C'est Cyril Kider et Omar Topelach qui se sont évadés. C'est Ola, pas Cyril.
Christophe.
Son frère. Christophe. Pardon. Alors, on suit ce procès qui a commencé mardi de la semaine dernière. Et on avait déjà un petit peu parlé il y a quelques jours déjà de l'avancée du procès. Alors depuis, rapidement, pour dire ce qui s'est passé, il y a d'un côté des flics qui s'embourbent complètement dans leurs déclarations contradictoires, ça c'est un truc de fou, sur la manière dont ils ont tiré, la manière dont s'est déroulée l'arrestation et la sortie de prison.
C'est-à-dire pendant la course-poursuite, après l'évasion, pas pendant l'évasion, là, tu parles.
Dis donc, il y a les deux. Il y a à la fois les matons à l'intérieur qui s'en mêlent les pinceaux sur les différentes versions, est-ce qu'ils ont tiré dessus, est-ce qu'ils n'ont pas tiré dessus, etc. Ils ont tendance à minimiser ce qu'ils ont fait. Et de l'autre côté, dehors aussi, la dernière course-poursuite finale, qui se finit dans un tunnel dans la région parisienne, c'est pareil, ils s'en mêlent complètement les pinceaux. Donc ça, on a vu une partie de ça. Voilà, on a vu un peu ça. Et par ailleurs, on a vu le sous-directeur et le directeur qui sont venus parler et qui étaient interrogés sur leurs responsabilités à ce moment-là, mais aussi c'était l'occasion de parler de la prison.
Pour l'instant, il n'y a que du coup les matons, les flics et l'administration pénitentiaire qui a été entendue aux audiences. Du coup, les inculpés.
Je vais remettre l'ambiance un peu du procès en tête, c'est-à-dire que c'est un procès quand même de rupture. C'est-à-dire que les inculpés, Christophe Kider, il est libérable en 2045. Il n'y a pas grand-chose à perdre, en fait, dans cette histoire. Il s'est évadé parce que c'est des peines qui sont insupportables, invivables, quoi. C'est juste la seule chose qu'il peut faire, c'est s'évader. Pour Omar, c'est pareil. Donc l'ambiance, elle est quand même au couteau. C'est-à-dire que dès qu'ils prennent la parole, tout le temps. C'est-à-dire, ça ne se déroule pas du tout comme un procès assez classique, etc. L'autorité même du président est quand même un peu bousculée, évidemment, elle est toujours là. Mais en tout cas, il y a Omar qui intervient tout le temps pour dire ce qu'il pense de la prison, que c'est des cimetières et qu'il les laisse crever là. Enfin, c'est un peu comme ça que ça se déroule.
Ils sont en mode provocation ouverte par rapport à leurs conditions de détention, du coup.
Bah, disons qu'en tout cas, l'enjeu du procès, c'est de réussir à dire quelque chose de la prison, de ces peines infinies, mais même pour eux. C'est central, puisque c'est la raison pour laquelle ils se sont évadés. Et ça, il faut que ça apparaisse. Et ça ne peut pas se dérouler normalement, on va dire, c'est-à-dire dans la sérénité, comme ils disent. Donc, voilà. Donc ça, c'est sûr qu'il y a régulièrement des interventions, etc. Voilà.
D'accord. Et du coup, il reste combien de temps d'audience?
Ça, c'est l'ambiance. Ça, c'est pour dire un mot de l'ambiance, quoi. Il reste encore au moins une semaine et demie, on va dire. Bon, c'est difficile à dire, mais en tout cas, les plaidoiries commenceront la semaine prochaine.
Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle? Beaucoup de monde qui est venu au procès?
Ça commence, pas tant que ça. Disons que la salle est quand même remplie de matons, essentiellement. Donc, c'est bien d'y aller, hein. C'est tous les jours, c'est à 9h. C'est à l'ancien palais de justice.
Rappeler quel palais de justice est à Servian ou
celui qui est sur les quais, le vieux. la vieille cour d'assises, quoi, là où Barbie a été jugée, quoi. Mm-hmm. Par ailleurs, nous on fait une réunion publique sur le procès vendredi à l'atelier des canulars à 20h. Donc c'est 91 rue Montesquieu, dans le 7e.
Tout à fait, métro, voilà. Tram, Saxe-Gambetta.
Les 4 premiers jours du procès ont été racontés dans des petits modules radiophoniques qui sont disponibles sur le site internet l'envolée.net.
C'est des reportages que vous avez fait pendant les audiences et après ?
Voilà, c'est-à-dire après, on a raconté les deux. Il y a un petit module qui raconte le mardi et le mercredi dernier, ça fait une demi-heure. Il y en a un pour jeudi et un pour vendredi. Donc ça permet de vraiment voir l'évolution de ce qui se passe, de comprendre à la fois ce qui s'est passé réellement dans cette évasion, de voir les différentes versions qui s'opposent et d'entendre notamment Christophe et Omar, comme disait Soral, s'interposer assez souvent et raconter ce qu'ils ont fait. Évidemment, on n'enregistre pas, hein, donc en sortant de là, ce qu'on fait à peu près là, mais avec un peu plus de temps et de recul.
Ouais, d'accord.
Un peu analytique sur ce qui s'est passé. Et puis donc il y a ça, voilà. Et là, on va mettre en ligne à partir de demain, tout début de la semaine, en fait, là, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, les trois journées qui viennent de se passer, pour que les gens qui voudraient suivre ça puissent se remettre tout un petit peu en tête et comprendre le déroulé de tout ce qui se passe dans cette histoire-là. Il y a énormément de choses qui sont dites, donc c'est assez intéressant de le prendre un peu dans la continuité. Voilà.
Ok, très bien.
Voilà, et donc c'est sur le site internet, c'est www.lenvolee.net.
lenvolee.net.
Voilà, exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler encore et dire annoncer quelque chose ?
C'est ce qu'on avait ajouté, mais on est rincé, parce que ces journées de tribunal, c'est un programme qui est mis en place tous les jours, évidemment, par le président, où lui-même essaye de mener les débats jusqu'à son bout, mais avec toujours un peu, évidemment, en fond, on s'est à charge, évidemment, hein, qu'il s'agit de... Parce que les gens ont reconnu le fait qu'ils s'étaient évadés, et que s'évader, ça constitue une chose qui est à peu près inadmissible pour l'administration pénitentiaire et la justice. Du coup, voilà, c'est des gens qui parlent de liberté. Du coup, ils donnent un programme assez serré. Et du coup, c'est écrasant. C'est vraiment des journées assez flingantes où eux, ils essayent de ramener systématiquement la petite bouillie du fait divers et l'histoire, et les versions contradictoires et ceci, cela, tandis que péniblement, certains accusés essayent de sortir de ça et de parler de leurs conditions. Enfin, donc c'est
un
aller-retour permanent tous les jours.
Ok, de toute façon, a priori, on va rester en contact. Vous aurez d'autres nouvelles sur l'avancée du procès sur Radio Canu dans les Canu Info.
D'accord, ciao, merci.
Merci, ouais.
Il faut que ça se sache.
Et sans transition, nous passons de la prison au centre de rétention et au tribunal. Rubrique Faut que ça sache sur l'émigration, les situations des migrants et des migrantes. On commence par une histoire dont vous avez déjà parlé deux fois dans ce Canu Info. C'est l'histoire du procès de l'évasion des retenus de centre de rétention de Palaiseau, en banlieue parisienne. C'était le 2 avril dernier, du coup, les juges de la cour d'appel ont rendu leur verdict concernant Ibrahim El-Louar, qui était condamné en première instance à 2 ans de prison ferme suite à l'évasion de Palaiseau, c'était en décembre 2012. 2 ans de prison ferme alors qu'il n'y avait aucune preuve, vu que la lumière était coupée, que la vidéo était inutilisable et que le retenu s'est juste fait défoncer par les flics et c'était son seul témoignage. En tout cas, en plus, en première instance, il n'avait pas pu avoir d'avocat et aucune défense, et il parle pas français. Enfin bref. Du coup, les chefs d'inculpation de tentative de soustraction à une mesure d'éloignement et de vol aggravé ont été annulés. Cette formulation avait été modifiée en première instance d'ailleurs pour menacer d'une peine de 3 à 13 ans de tôle et non pas de 1 comme ça avait été demandé au tout départ. Mais il a quand même été reconnu coupable pour les violences aggravées sur ce qu'on appelle les agents dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire les 2 flics. En état de récidive légale, et donc il est condamné à 1 an de prison ferme. Il est donc maintenu en détention à la prison de Fleury, où il était déjà placé en préventive. Il fera donc quand même 1 an de moins que ce qu'il avait matraqué à la première instance, grâce à son choix de faire appel, et d'avoir cette fois pu être défendu par un avocat. Mais la justice n'a bien sûr pas contredit la version des flics, malgré leur mensonge flagrant. Si vous voulez le soutenir, vous pouvez toujours lui écrire, comme on l'avait déjà dit l'autre fois, Ibrahim El-Louar. Tous les numéros d'écrou, etc. sont sur le site blog de Sans Papiers ni Frontières.
Il faut que ça se sache.
Jeudi, au centre de rétention administrative de Perpignan, un retenu s'est enfoncé un stylo dans l'œil jusqu'au cerveau pour protester contre ses conditions de rétention. Il est actuellement dans le coma et son pronostic vital est sérieusement engagé. Il avait réussi à résister 5 fois quand même à des embarquements forcés face à l'obstination de l'administration. Et du coup, il voyait un peu plus que cette solution face à une autre expulsion qu'on lui proposait. La CIMAD tient quand même à souligner qu'il ne s'agit là pas que d'un acte isolé et que le nombre d'automutilations augmente et que rien n'est fait pour soutenir ces personnes. En solidarité, au centre de rétention de Perpignan, 17 retenus du centre ont refusé leur repas du jeudi midi pour le soutenir et pour dénoncer leurs conditions de rétention. Et alors là, l'UNSA Police tient à nous préciser que de son côté, et là je cite, sans l'intervention express des policiers de garde, cette personne n'aurait pas survécu. Alors là, il faudrait quand même leur rappeler que pour l'instant, il n'est pas sorti d'affaire. Et qu'on va pas non plus leur donner une médaille pour avoir prévenu les secours et que sans l'intervention express de leurs collègues pour foutre un max de sans-papes dans les centres de rétention, cette personne ne serait pas entre la vie et la mort et que tous les autres ne seraient pas enfermés.
La semaine prochaine, un débat sur l'immigration et plus spécifiquement sur les flux économiques va s'ouvrir au Parlement. Donc c'est Manuel Valls qui lance cette dynamique. Notre cher ministre souhaiterait entre autres faciliter l'accueil de, entre guillemets, talents étrangers sur le territoire français. Donc plus spécifiquement en termes de son alinéa numéro 17, il est indiqué que l'arrivée de talents étrangers et de visiteurs professionnels contribue au rayonnement de l'économie française. Ce d'autant que la participation à la formation de nouvelles élites issues de pays émergents est devenue une condition de la compétitivité mondiale. Voilà, ça c'était dans ce rapport. Bref, le débat parlementaire doit aussi être l'occasion de discuter du renforcement de notre compétitivité et de la consolidation de notre rang international. Et un autre thème soulevé dans ce texte concerne la politique d'accueil des étudiants étrangers. Il y a indiqué que la participation active à la formation des nouvelles élites issues de pays émergents est devenue une condition de la compétitivité mondiale. Bref, cette participation pourrait être renforcée. Donc l'idée là dans ce projet de loi est donc d'assouplir la politique des visas afin de favoriser la circulation, pas de n'importe qui, mais des, je cite, talents étrangers. Une immigration bien choisie de personnes riches et qui peuvent booster l'économie française. On ne parle pas de regroupement familial ici, non. Donc la délivrance des visas de circulation va donc être simplifiée. Visas qui seront valables entre 6 mois et 5 ans. Donc pour ces talents étrangers, et donc ce qu'ils entendent par talents étrangers, c'est donc universitaires, scientifiques, artistes ou et touristes ayant la France comme destination privilégiée, donc touristes avec fort capital économique. À cette fin, une circulaire a été adressée au consulat le 21 mars dernier afin de leur demander de traiter les dossiers avec davantage de souplesse, notamment ceux des hommes d'affaires, des scientifiques et des artistes. Bien évidemment. Et donc, le texte de la circulaire prévoit d'alléger aussi la liste des pièces exigées pour les dossiers des personnes souhaitant obtenir un titre de séjour. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et l'objectif de ce texte est clairement affiché. Je cite que dans un an, quand un bilan de l'application de ce texte sera fait, nous ayons clairement une augmentation du nombre de visas.
Voilà, depuis le 12 janvier 2010, souvenez-vous, c'était le tremblement de terre gigantesque en Haïti, l'île ravagée, etc. Depuis le 12 janvier, donc, il y avait un moratoire qui avait été déposé par le gouvernement français pour plus ou moins arrêter de criminaliser les migrants haïtiens qui se rendaient en Guyane pour échapper à la situation complètement horrible qu'ils étaient en train de vivre. Du coup, sur ce coup-là, c'était plutôt fair-play pour une fois, comme politique migratoire. Mais il semblerait que c'était quand même surtout un bon relan humaniste et surtout largement influencé par le traitement hyper larmoyant de l'information dans les médias à cette période-là. Car depuis le 23 mars de cette année maintenant, on fait un bond de 3 ans là en avant, il y a plusieurs Haïtiens, et ça commence à être même de plus en plus, qui ont été placés au centre de rétention en Guyane en vue de leur expulsion.
cette décision des autorités françaises est visiblement le début de la concrétisation des déclarations de ce très cher Manuel Valls, qui était en Guyane début mars. Il y a annoncé la fin du moratoire contre les expulsions. Il semble donc que la solidarité soit passée de mode et un peu has-been sans doute. Pourtant, plus de 3 ans après séisme, il faut quand même rappeler que Haïti continue largement à patauger de manière assez catastrophique. C'est hyper dur de réussir à reconstruire le pays. C'est rendu encore plus franchement difficile car il y a eu énormément d'ouragans qui ont régulièrement balayé les efforts qui avaient été portés sur le développement agricole, sur la lutte contre la crise sanitaire et la reconstruction des infrastructures. Et en plus, Haïti fait aujourd'hui face à la menace d'une crise alimentaire qui semblerait être en bonne voie de prendre de l'ampleur. Mais voilà, c'est quand même fini d'être philanthrope pour Valls, qui, on le rappelle, a expulsé en un an 36 800 personnes et a donc détrôné, il n'y a pas que les Roms du coup comme on en parlait tout à l'heure, a détrôné tous les ministres du gouvernement Sarkozy. Sur place en Guyane, il y a une asso qui s'appelle le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, le GAR, qui tente de protester contre ces mesures, craignant un dispositif d'expulsion massive avec des études de dossiers minimales et très peu scrupuleuses. Ils ont lancé une pétition que vous pouvez retrouver sur le site du Gisti, c'est-à-dire gisti.org.
Ça sache.
Et voilà, Valls est un homme pressé. Une dernière petite brève, parce que quand même l'histoire est un peu drôle, même si elle est un peu consternante. Samedi dernier à Paris, le 9e collectif des sans-papiers, un collectif qui brasse depuis très très longtemps et de chouette manière sur ces questions-là, a appelé à une manif qui avait été déclarée en préf le mardi précédent, dans les délais, tout ça. L'idée, c'était une manif en centre-ville, bien sûr, mais aussi de défiler juste à proximité du domicile de Manuel Valls à nouveau, pour demander l'abrogation de la circulaire du 28 novembre, fameuse circulaire qui rend plus difficile la régularisation des personnes travailleurs et travailleuses sans papier. Depuis le 9 février, c'était la 4e fois que le 9e collectif manifestait rue de la Roquette pour envoyer cette petite pique au ministre. A chaque fois, ils ont été confrontés à un dispositif policier démesuré, blocage de tout le quartier, 1000 fois plus de gendarmes que de manifestants, sachant que c'est pas des super gros appels, mais jusque-là, manif possible. Sauf que là, du coup, après la 3e manif, pendant que le cortège bloquait l'accès à son domicile, Valls aurait manifesté son impatience. Du coup, la dernière manif a été empêchée, refusée en préf, puis, alors qu'elle a eu lieu quand même, bloquée dès la place de la Bastille, refoulée vers le métro. Les flics ont entouré en masse et encerclé tout le monde et menacé d'embarquer plein de gens, comme ça se passe souvent à Paris. Du coup, tout le monde a bien flippé, parce qu'il y avait quand même plein de sans-papes, et ils ont bien eu peur qu'il y ait eu des gros convois vers le centre de rétention, mais il semblerait que personne ne se soit fait embarquer.
Il faut que ça sache.
Et bien alors, on va encore faire une petite... Je parle là ou je parle pas ?
Tu parles.
Ah, je m'entends pas. Ok. On va encore faire une petite info sur le fait que le week-end dernier, c'était le 19e anniversaire du début du génocide rwandais. Et donc, 19 ans après, et ben, la France ne semble toujours pas vraiment prête à faire un peu l'inventaire de ses responsabilités et encore moins à, d'une manière quelconque, montrer un peu de regret pour le fait qu'elle a quand même très largement co-organisé ce génocide, voire qu'elle l'a vraiment organisé en réalité.
Mis en place, oui. Hein.
Donc là, c'était la première fois que François Hollande était président pour un anniversaire du génocide rwandais. Eh bien, il en a profité pour n'envoyer aucun responsable officiel à aucune des commémorations organisées, ni au Rwanda, ni dans les différents endroits en France où il y a des survivants du génocide qui, eux, font des commémorations. Alors... Ok, très rapidement, on va quand même préciser que à côté de, encore une fois, deuxième fois ce soir, je vais dire du bien des juges, que pendant que, pendant que le pouvoir politique en est là, et ben il y a des juges eux qui commencent en France à traîner des anciens génocidaires, donc des gens qui ont commis ce génocide devant les tribunaux. Et donc, là, on a le renvoi devant une cour d'assises d'un présumé génocidaire par les magistrats de ce truc qui s'appelle le pôle génocide et crimes contre l'humanité. Alors, ce pôle génocide et crimes contre l'humanité a été créé par Kouchner il y a un an et des brouettes. Aujourd'hui, il y a 3 juges d'instruction et 2 procureurs. Et donc, eux, ils ont commencé à faire juger des gens. Et bon, voilà, on a un exemple du côté de Mayotte, d'un gars qui s'est fait choper pour une histoire de trafic de je ne sais quoi, et qui s'est avéré en fait être un ancien des forces armées rwandaises. Et du coup, il y a eu aussitôt une plainte déposée par le collectif des partis civils pour le Rwanda, qui fait que là, il va être jugé cette fois-ci pour ce qu'il a fait au Rwanda. Alors bon, c'est juste quelques personnes. Hein, pendant ce temps, le Le Q curé Venceslas Mounieshiaka, qui lui, on sait, alors qui lui est en France depuis 94, dont on sait depuis quelques mois après qu'il soit arrivé en France, c'était Golias qui avait révélé l'info. Qu'il a livré des Tutsis qui étaient venus se réfugier dans son église, qu'il a aussi échangé avec des jeunes filles Tutsis le fait de les protéger contre le fait de coucher avec elles. Bon, lui, il est toujours en liberté. Et aussi Laurent Boussia-Batoura, qui lui était préfet de Gikongoro pendant le génocide, donc qui a été un des organisateurs de plusieurs massacres, dont le massacre de Murambi, qui a été un massacre gigantesque. On ne sait pas si c'est plutôt 20 000 ou plutôt 50 000 victimes. Donc lui, c'était un organisateur de ça. Lui, il habite en France et il y coule des jours heureux.
Et ben voilà. La semaine passée ressemblait un peu à ça. Mais peut-être qu'on va commencer un peu à voir le bout de ce tunnel sombre, grisâtre et humide, et que la semaine prochaine, vous allez vous réveiller plutôt avec ça. Ça fait rêver quand même.
Ouais, fais-moi rêver.
Eh bien, je vous promets, ça va venir. En tout cas, c'est ce que nous disent les experts en météorologie. Alors voilà, je sais ce que vous vous dites, c'est encore ces salauds de socialistes qui font pression sur les experts pour nous faire oublier leurs ministres qui vont cacher l'équivalent de 833 ans de SMIC en Suisse. Peut-être. Mais l'expert en météo que je suis doit vous dire que la vérité est ailleurs. La mort de Margaret Thatcher. Figure d'une politique ultralibérale, politique d'austérité, de casse sociale, qui peut se traduire en météo par un épais brouillard et un soleil quasi inexistant où seuls ceux qui sont équipés de bons parapluies peuvent s'en sortir. Eh bien écoutez, ce temps-là arrive à sa fin, le brouillard se lève et le soleil fait enfin son apparition. Regardez, demain, les puissants continuent à faire de la résistance et nous balancent leurs dernières réserves de pluie. Mais les températures montent d'un cran, on aura 10 degrés le matin et 19 degrés l'après-midi, accompagné d'un peu de crachin. Vendredi, le soleil va pointer le bout de son nez, les craintes des dirigeants se traduisent par de rares averses localement orageuses l'après-midi. La seule chose que ces minables réussiront à obtenir, c'est une légère baisse des températures, 11 degrés le matin, 16 degrés l'après-midi. Samedi, le combat a payé. Les sinistres politiques ont perdu, le soleil sera là, et pas un seul nuage ne pointera le bout de son nez. On profitera d'un petit air frais le matin pour rester sous sa couette avec 5 degrés. Et pour arriver à 19 degrés l'après-midi à une terrasse d'un café. Le dimanche...
Wow.
Je vous promets, ça vient. Dimanche rebelote. Là, on dépasse la barre des 20 degrés pour arriver à 22 en sirotant son demi sur la même terrasse. Et ouais.
On peut changer de terrasse quand même ou...
Ah, c'est possible, c'est possible. La semaine prochaine s'annonce plutôt à notre avantage. Lundi, les racailles en col blanc réussiront à couvrir le ciel, mais n'arriveront pas à toucher aux températures. 9 degrés le matin, 22 l'après-midi. Mardi, en représailles, on leur crachera la figure, ce qui provoquera quelques averses. Mais mercredi, le soleil affirme sa place et le printemps commence à s'installer. Les beaux jours arrivent, promis. L'optimisme va gagner les esprits, je peux vous le dire, et ça rappellera les scènes de joie dans les rues à l'annonce de la mort de cet homme horrible, Margaret Thatcher.
Donc le mois de mai s'annonce plutôt beau, c'est ça ?
Tout à fait.
Et révolutionnaire.
Bon, il nous reste deux toutes petites minutes juste pour une info d'agenda pour laquelle on nous a appelé. Il y a un rassemblement devant la prison de Corba samedi 13, donc ce samedi à 15h, pour Sofiane qui est mort dans la prison de Corba le 11 mars dans des circonstances inconnues. C'est à l'appel de banc public, c'est à 15h, c'est samedi 13 et c'est devant la prison de Corba.
Voilà, c'est la fin de ce Canu Info.
On a fini ?
C'est fini.
Eh ben, on a même fini avec plusieurs secondes d'avance, c'était inattendu.
Incroyable.
Laisse la place à Idée Noire. Bonne soirée.
Allez, Idée Noire.
À la semaine prochaine.